Les marchandes de sable, fable de La Fontaine. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons le montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne peux troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, je t'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. L'homme et son image. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroir dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants, miroir aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse ? Il va se confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau, mais quoi, le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui. Miroirs de nos défauts, les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des maximes. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préféré, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'empire. Un Allemand se mit à dire « Notre prince a des dépendants qui de leurs chefs sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. » Nekiaou, homme de sens, lui dit « Je sais pas renommer ce que chaque électeur peut de monde fournir. » Et cela me fait souvenir d'une aventure étrange, et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr, lorsque je vis passer les 100 têtes d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moi on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sur le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi, ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef et bien plus d'une queue, À passer se présente. Me voici saisi deux rechefs d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens que l'un est ainsi de votre empereur et d'une autre. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coups de poing trottaient et que nos champignons songeaient à se défendre, arrive un troisième larron qui saisit maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une autre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois. Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois. Il est assez de cette marchandise. De nul d'eux n'est souvent la province conquise. Un quart voleur survient, qui les accorde net en se saisissant du baudet. La mort et le malheureux. Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. « Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle, viens vite, viens finir ma fortune cruelle. » La mort crut en venant, l'obligeait en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. « Que vois-je » cria-t-il, « ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. » Mécénat fut un galant homme. Il a dit quelque part « Qu'on me rende impotent, cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive, c'est assez. Je suis plus que content. Ne viens jamais aux morts, on t'en dit tout autant. » La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramées, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants, et tâchait de gagner sa chemine enfumée. Enfin, n'en pouvait plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier, et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. « C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne t'attarderas guère, notre épave vient nous tout guérir. Mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. » L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de moyen âge, tirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content, partant de quoi choisir. Tout voulait lui plaire, en quoi notre amoureux ne se pressait pas tant. Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eut le plus de part, l'une encore verte et l'autre un peu bien mûre. Mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature? Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'avaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment de sa part, emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avez si bien tendu. J'ai plus gagné que perdu, car d'hymen point de nouvelles. Celle que je prendrai voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligée, belle, de la leçon. » Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivit chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. » Alors dit, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manquant point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à col long et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du sire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. »